Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Sans elle, ni éjaculation, ni reproduction. Et pourtant, nombreux sont ceux pour qui la prostate reste une inconnue et qui s'en préoccupent uniquement en cas de problème. Gêne, envie pressante d'uriner, trouble de l'érection, des signes qui rappellent souvent aux hommes l'existence de cette glande très intime, elle qui produit le liquide qui compose le sperme. Certains symptômes peuvent inquiéter car la prostate est souvent dans l'esprit du grand public associé au cancer de la prostate. Le plus fréquent chez les hommes, cancer dont le risque augmente avec l'âge. Dans cette émission, nous parlerons de cette maladie, de son dépistage, de la prévention et des traitements, mais pas seulement. Cette glande est sujette à d'autres atteintes qui affectent son volume ou le fonctionnement de la zone urogénitale, hypertrophie, troubles urinaires ou sexuels, douleurs, des symptômes qui doivent pousser les hommes à consulter, à en parler, à briser le tabou, car les traitements et les solutions existent, comme d'ailleurs les gestes de prévention pour prendre soin de sa prostate. Et pour répondre à toutes vos questions sur cet organe aussi discret qu'indispensable, avec nous en studio, le professeur François Desgrandchamps, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes le chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et de l'unité translationnelle d'immuno-onco-urologie du CEA. Professeur Desgrandchamps, vous êtes l'auteur de « La prostate, on en parle », publié aux éditions Hachette Bien-être, un livre sur lequel je me suis largement basée, bien sûr, pour préparer cette émission. On va en parler aussi tout à l'heure avec le docteur Édouard Hervé Moby, chirurgien urologue à l'hôpital Nkong Samba du Cameroun et enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala. En fin d'émission, nous retrouvons le docteur Catherine Solano, sexologue, qui va bien sûr répondre aux questions des auditeurs. Et puis on attend vos questions, vos coups de fil, notre numéro 33 1 84 22 75 et bien sûr sur la page Facebook de l'émission.
Priorité Santé sur RFI.
Dans quelques minutes, on donnera bien sûr la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Mais d'abord, professeur François Desgrandchamps, on a parlé de ce tabou, c'est souvent le mot associé à la prostate. La prostate, c'est inconnu. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui?
Oui, malheureusement. Les hommes n'aiment pas trop en parler parce que c'est toujours lié, comme vous l'avez dit, à la virilité. Et donc, en parler, c'est faire preuve d'une certaine faiblesse de ce côté-là. Et bon, par mon métier d'urologue, parfois dans certains dîners, on est amené à parler de ça. Les hommes détournent la conversation très très vite. Et c'était d'ailleurs l'origine du livre que j'ai fait chez Hachette.
C'est
que, à un moment donné, il faut dire les choses parce que il faut sortir les hommes de leur isolement. Chaque homme souffre en silence, alors que déjà, quand on sait que c'est partagé par beaucoup, on se sent déjà moins inquiet. Et puis surtout, le fait d'en parler, comme vous l'avez dit aussi, conduit à des examens, conduit à un traitement et conduit à un mieux-être. Donc il faut briser ce tabou.
Tabou qui s'exprime comment? Par le silence, vous disiez, un petit peu une gêne, ou plutôt des ricanements, de la grivoiserie pour finalement ne pas en parler?
Bon, il y a les deux attitudes, c'est-à-dire soit on répond pas, j'avais fait un tour de table en demandant pour vous la prostate c'est quoi, soit on répond pas, soit on part dans des digressions un petit peu libertines. Voilà.
Alors justement on en parle, petite leçon d'anatomie, description, localisation, on part du basique professeur Desgrandchamps.
Le basique du basique, c'est que la prostate c'est une glande qui est située entre la vessie, sous la vessie et le sphincter urinaire. Donc c'est une glande, bien sûr, qu'on ne voit pas et que l'on peut palper éventuellement par le toucher rectal, donc on y reviendra, mais qui est une toute petite glande qui est traversée par l'urine. L'urine doit passer au milieu de cette glande qui est creuse pour sortir. Et donc dès que la prostate va se modifier, elle se modifie toujours avec l'âge, elle grossit ou elle se transforme en cancer. À ce moment-là, il peut y avoir des petits signes urinaires qui sont des signes d'alerte. Le jet d'urine est moins fort ou le jet d'urine est plus pressant. Enfin, il y a des petits signes urinaires très très rapidement.
Pourquoi est-ce qu'elle s'abîme avec l'âge? C'est parce qu'elle n'est pas prévue pour durer?
probablement, enfin ça c'est une perception personnelle, c'est que l'homme n'est pas fait pour vieillir si longtemps en fait, je crois, et que comme la prostate est faite pour la reproduction, eh ben on se reproduit entre 20 et 30 ans habituellement, et puis la prostate, elle sait plus quoi faire d'elle après 45 ans, et à partir de 50 ans, rien n'était prévu, donc elle vit sa vie, elle grossit de façon bénigne, c'est l'adénome, elle se cancérise aussi.
Alors justement, vous parlez de ce changement de volume qui peut évoluer vers un cancer dans les pires des cas. Au niveau du ressenti des hommes, quand est-ce qu'ils doivent consulter? Est-ce que c'est juste un critère d'âge ou aussi un critère de symptômes, professeur Desgrandchamps?
Alors, il y a deux grandes maladies, en dehors de l'infection de la prostate, qui, elle, parle tout de suite avec des douleurs et des brûlures en urinant, comme la cystite de la femme. Les deux autres maladies, c'est soit le cancer, lui, il parle pas, ou il parle à un stade très avancé, et donc, comme il n'y a pas de signe, il faut aller de façon active, proactive, voir un médecin pour demander l'état de sa prostate, avec des dosages de PSA, et on y reviendra, mais l'autre signe, l'autre maladie, c'est l'adénome de la prostate, et là, c'est des petits signes urinaires qui sont pas comme d'habitude, c'est-à-dire que on va être obligé de se dépêcher d'uriner, on pourra du mal à se retenir, uriner fréquemment ou obligé d'attendre pour uriner, tout un tas de petits signes qui malheureusement sont souvent d'installations insidieuses et donc les hommes compensent, pensent que c'est pas grave et à un moment donné il faut qu'ils consultent pour pouvoir être améliorés.
Un dernier point sur cette notion de tabou, est-ce que c'est justement en fonction de la fréquence des cancers que aussi peut-être les hommes n'ont pas trop envie d'en parler, moins en parler, c'est aussi moins penser au cancer?
Alors ça peut être ça, mais c'est surtout un problème de virilité parce que la prostate est associée à la virilité, c'est un organe de reproduction et que tout le monde sait que les traitements des maladies de la prostate peuvent engendrer des problèmes de fuite urinaire ou des problèmes d'impuissance. Et donc, il y a aussi la peur des conséquences d'aller consulter. J'espère qu'on ne va pas m'enlever la prostate. Les hommes viennent souvent à reculons.
Y compris peur de la consultation en elle-même et des gestes qui peuvent arriver pendant cette consultation, professeur Desgrandchamps?
Alors oui, là ça tourne autour du toucher rectal. Le toucher rectal fait par l'urologue est très informatif parce que en mettant le doigt dans le rectum, on palpe immédiatement la prostate qui est séparée juste par l'épaisseur de l'intestin. Et donc on peut savoir immédiatement si elle est grosse ou si elle est cancéreuse, c'est un petit nodule dur. Et ce toucher rectal est parfois mal vécu par les patients. C'est très symbolique en fait, hein, l'homme pénètre et n'est pas pénétré, donc il faut arriver à dédramatiser, expliquer ce que l'on en attend, c'est pas douloureux et c'est très informatif.
Professeur François Desgrandchamps, comme promis, on donne tout de suite la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Le premier de ces auditeurs nous appelle de Matadi en République démocratique du Congo, c'est Joseph. Bonjour Joseph.
Oui. Bonjour maman, je vous écoute. Comment ça va?
Ça va bien, on vous écoute. Bonjour, posez votre question au professeur Desgrandchamps.
Oui, mon problème est ceci. J'ai un problème d'urine. Je n'ai plus la pression urinaire.
Oui.
Moi, quand on urine, il y a une pression qui arrive.
Oui.
Plus de pression urinaire.
Oui.
Je n'ai plus même, le pénis n'a plus de pression. La virilité. Je n'ai plus de virilité. Et puis, quand j'ai fait le rapport sexuel, quand j'ai fait l'éjaculation, ce n'est pas les spermatozoïdes qui sortent, ce sont les pertes blanches.
D'accord.
Alors, on a fait le toucher rectal.
Oui.
Le médecin n'a rien trouvé. Il a dit qu'il n'y a rien.
D'accord.
On a fait l'échographie, on n'a rien trouvé. Alors, je voudrais savoir, c'est dit à quoi?
Alors, donc les symptômes que vous avez décrits au départ sont pourtant assez typiques d'une grosse prostate. On a un jet difficile et au moment de l'éjaculation, ça sort mal parce que la prostate doit se contracter pour pouvoir faire sortir le sperme. Et quand la prostate est trop grosse, en fait, elle n'arrive plus à évacuer à l'extérieur. Et donc, si vous avez été examiné et que, de façon assez surprenante, la prostate est normale, c'est qu'il y a un autre diagnostic à évoquer qui s'appelle la sténose de l'urètre. C'est le canal qui est dans la verge qui peut se rétrécir, surtout si, par exemple, vous avez déjà eu des infections génitales, si vous avez eu des urétrites, dans ces cas-là, l'inflammation de ce canal peut se compliquer d'un rétrécissement. Donc, si c'est pas l'adénome de la prostate, donc si la prostate n'est pas grosse au toucher rectal, il faut penser à un rétrécissement du canal de l'urètre. Et là, le diagnostic se fait avec une endoscopie, c'est-à-dire qu'on passe un petit appareil par le canal de la verge et on voit immédiatement que c'est rétréci. Le traitement, c'est simplement d'effondrer ce rétrécissement.
Ça veut dire qu'il faut aller voir quel spécialiste,
c'est
quelle structure.
L'urologue. C'est typiquement l'urologue, mais je ne suis pas sûr qu'en RDC, il y ait les endoscopes nécessaires.
Joseph, est-ce que vous avez un urologue, un service spécialisé justement sur ce genre de troubles autour de chez vous, vers Matadi?
Non, en Matadi, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas.
Il
faut aller à Kinshasa pour ça.
Voilà, sinon le test que vous pouvez faire, c'est moins simple, mais vous pouvez, avec une sonde vésicale toute simple, enfoncer la sonde dans la verge, et si ça bute au milieu de la verge, c'est que c'est une stéose de l'urètre. C'est donc un rétrécissement, et ça n'a rien à voir avec l'adénome de la prostate.
Est-ce que ça veut dire que ce genre de geste, c'est un médecin généraliste, voire même une infirmière qui peut le réaliser?
Oui, avec une anesthésie locale, et si ça bute, c'est que le canal est rétréci.
Voilà, Joseph, pour ce conseil du professeur François Desgrandchamps, donc de retourner consulter pour explorer cette deuxième voie. Merci à vous.
Monsieur.
Très bonne journée à vous à Matadi. On va partir pour le Tchad tout de suite, où on va retrouver Kimto. Bonjour Kimto, vous êtes en ligne de N'Djamena.
Bonjour, Catherine, bonjour.
Bonjour monsieur.
On vous écoute, Kimto.
Oui, ma question à la professeure pour savoir à quel âge peut-on souffrir du cancer de prostate et de la prostate.
Alors, c'est en principe à partir de 50 d'années que ça peut arriver, mais malheureusement, il y a des cancers plus violents qui peuvent survenir à partir de 45 ans. Donc, avant cet âge-là, il y a très peu de risques de cancer, mais à partir de 45-50 ans, ça peut arriver.
Est-ce que ça augmente après, professeur Desgrandchamps, avec l'âge, les années
Absolument.
Qui passent?
Absolument, mais il faut déjà dire qu'il y a deux types de cancers de la prostate. Il y a des cancers qui sont très dangereux et qui peuvent aboutir au décès du patient avec des métastases, et puis des cancers qui sont un peu indolents, qui sont un peu des formes de vieillissement de la prostate, vieillissement naturel. C'est un peu surprenant de penser qu'un cancer peut ne pas tuer, mais c'est pourtant le cas pour à peu près la moitié des cancers qui sont découverts, au moins en France. Et donc, pour répondre spécifiquement à votre question, oui, il y a une relation entre l'âge et le cancer, c'est-à-dire que à 80 ans, si vous analysez la prostate des hommes qui sont morts d'autre chose, dans 80% des cas, vous trouvez du cancer, mais c'est des cancers qui ne sont pas dangereux, qui sont les formes de vieillissement. Les autres cancers, eux, risquent de tuer avant cet âge-là.
Voilà, Kimto, pour cette réponse du professeur François Desgrandchamps. Excellente journée pour vous au Tchad. J'ai sous les yeux une question Facebook d'Ibrahim de Côte d'Ivoire qui pose cette question sur l'hérédité, professeur Desgrandchamps. Les problèmes de prostate sont-ils héréditaires?
Alors c'est intéressant parce que déjà l'adénome de la prostate grossit chez tous les hommes. Alors est-ce qu'il y a un facteur héréditaire? Il y a une grande étude faite chez les vétérans de l'armée américaine sur les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire qu'en fait des jumeaux qui se ressemblent beaucoup, les mêmes yeux, les mêmes couleurs de cheveux, etc., et qui montrent que même quand ils sont séparés de plusieurs milliers de kilomètres, ils ont le même risque supérieur d'être opérés d'un adénome de la prostate quand le frère l'a été. Donc on connaît pas le mécanisme sous-jacent, mais il y a un facteur héréditaire dans l'adénome de la prostate. Pour le cancer de la prostate, c'est encore plus vrai. Il y a une forme, c'est moins de 10% des cas, mais il y a des formes qui peuvent être transmises de génération en génération. Quand est-ce qu'on sait qu'on a un risque héréditaire? C'est quand il y a beaucoup de cancers dans les ascendants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins deux cancers chez un père, un frère. C'est pas juste un risque, c'est pas un cancer de la prostate qui va donner un risque héréditaire, c'est plusieurs cancers dans la famille.
D'accord, pour cette réponse donc qui est donnée à Christian, il y a une autre question, à Ibrahim, pardon, il y a une autre question. Alors là, je pense qu'on va vous aller répondre très rapidement. Est-ce que les problèmes de prostate peuvent être contagieux?
Non.
Voilà, la réponse.
C'est un peu court comme réponse.
Oui, mais elle est bien, votre réponse. Je la trouve très bien. On va tout de suite. En tout cas, s'il y a une question, elle mérite d'être posée. Bon, comme ça, on a résolu la question. On prend tout de suite en ligne de Kinshasa. On retourne en République démocratique du Congo. On prend Joram en ligne. Bonjour, Joram.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Joram.
D'accord, moi... Et une préoccupation un peu longue, là.
On a le temps, on vous écoute.
D'accord. C'est un problème, c'est mon papa qui a ce problème-là. Il avait attrapé cette maladie en 2011. Et 2011, en 2018. Quand ça a commencé en 2011, il est allé voir le médecin. Le médecin, il a prescrit le médicament qu'il a pris pendant 2011, en 2018. Ces médicaments-là ont fait effet. Maintenant, arrivé en 2018, cette maladie encore a repris.
Joram, je vous interromps tout de suite. De quelle maladie vous parlez? Est-ce que vous parlez du cancer ou est-ce que vous parlez du grossissement de la prostate, de l'adénome?
Le grossissement. Grossissement. Pas le cancer.
D'accord.
Oui. Quand il est allé voir le premier médecin, ils étaient en grève. Bon, il ne pouvait pas attendre jusqu'à ce que cette grève pouvait prendre fin. Il est allé voir un autre médecin. Le médecin l'a donné encore d'autres produits. Il a commencé à prendre, il a pris. Quelques jours avant la fin du traitement, cette maladie a repris, c'est-à-dire comme avant ou plus.
Oui.
Il est revenu encore voir ce dernier. Ce dernier l'a encore donné le même traitement.
Oui.
Ouais. c'est notre crainte maintenant. Le médecin d'avant, quand il est revenu pour le voir, bon, je ne sais pas si c'était sous l'effet de la colère, du fait que papa était parti depuis 2011, en 2018, il n'est plus revenu, il a directement opté pour l'opération.
D'accord.
Alors que le deuxième médecin lui avait dit que comme c'est juste une enflure, il n'y a pas besoin de faire une intervention chirurgicale. On peut les traiter sans intervention. Mais on pensait peut-être qu'il allait donner un autre traitement. Malheureusement, il a repris encore le traitement, hein, le même traitement d'avant.
Mm-hmm.
Maintenant, la santé des papas est stationnée.
Mm-hmm.
Ça n'évolue plus. Quand il a toujours le même problème quand il va se soulager, au lieu que les urines coulent, ça fait un retour. Notre crainte maintenant que le retour là, les urines, ce sont des déchets que l'organisme refoule. Quand ça rentre encore dans le vessie, ça risque de créer encore un autre problème que nous ignorons. Voilà pourquoi je vous ai appelé. S'il y a une solution ou une suggestion, une proposition, vous pouvez me dire, ou bien pendant ou après l'émission, je ne sais pas comment.
Mmh, d'accord. Donc en fait, l'idée c'est, est-ce que toutes les solutions de médicaments ont été tentées ou est-ce qu'il faut opérer globalement? De façon générale, on n'opère que 10% des hommes qui ont une grosse prostate. Dans 90% des cas, les médicaments peuvent suffire. Alors quels médicaments? Si on vous donne toujours le même médicament, ben, il faut savoir en changer. Et il y a en particulier une famille de médicaments qui peut faire diminuer la taille de la prostate. C'est du jargon, mais ça s'appelle les inhibiteurs, la sacalfa-réductase. C'est finastéride et dutastéride. Je pense que c'est disponible chez vous. Et ça peut avoir un petit effet. Sinon, si malgré ces médicaments les plus complets, votre papa est toujours gêné, à ce moment-là, il faut envisager l'opération. Alors, l'opération, il y a un risque de saignement qui est assez limité, mais qui existe quand même. Alors, ça, savoir dans quelles conditions ça peut être fait chez vous, mais de façon alors plus moderne, mais ça, c'est pas forcément disponible dans votre pays, et ça se développe simplement seulement maintenant en France. Pour éviter l'opération, on peut faire une embolisation de la prostate. La prostate, elle est vascularisée par 4 petites artères, et donc les radiologues interventionnels peuvent boucher ces artères, et dans ces cas-là, la prostate diminue de taille et peut permettre d'éviter une opération. Mais je ne suis pas sûr que ce traitement existe. Donc, pour se résumer, en fait, il faudrait que vous puissiez avoir le maximum de médicaments, c'est-à-dire que associer deux médicaments différents. Vous avez sans doute ce qu'on appelle les alpha-bloquants, qui sont très diffusés dans le monde, qui relâchent les muscles de la prostate pour que la prostate s'écarte mieux et laisse passer les urines. Si ce genre de médicament ne suffit pas, il faut ajouter un médicament qui diminue la taille de la prostate, donc finastéride ou dutastéride.
Ça veut dire, professeur Desgranchon, ces prescriptions, un généraliste peut les faire
bien
aussi
sûr,
ou simplement auprès d'un urologue?
Non, bien
un
sûr.
Généraliste.
Oui, oui.
Donc Joram, en fait, retourner avec votre papa en consultation pour interroger le médecin sur ses autres molécules
voilà.
disponibles.
Mais sinon, le critère pour opérer quelqu'un d'un adénome de la prostate, c'est quand la vessie se vide mal, c'est-à-dire que quand une fois qu'on a fini d'uriner, il reste de l'urine dans la vessie, plus que 150 ou 200 millilitres, là, les médicaments sont plus assez forts et il faudra opérer.
Voilà, Joram, pour cette réponse du professeur Desgranchon. On vous souhaite une bonne journée à Kinshasa. On va rester dans la capitale de la RDC puisqu'on y rejoint Erson. Erson, bonjour.
Bonjour Caroline Paré, bonjour professeur et bonjour à tous les auditeurs de Priorité.
Bonjour Pensée. Monsieur.
Erson, on écoute votre question.
Oui, madame Caroline, j'ai deux questions en fait. La première question, il y a depuis un certain moment, la littérature... On parle d'un mécanisme selon lequel quand un homme a au moins 21 éjaculations par mois, cela diminuerait le risque de maladie prostatique.
Mmh.
Maintenant, ma question à ce sujet est celle de savoir comment expliquer ces mécanismes-là scientifiquement.
Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, les études statistiques sont sous-tendues par des hypothèses biologiques assez solides. Et donc, comme vous l'avez dit, quand on éjacule plus que 20 fois par mois, on a deux fois moins de cancer de la prostate. Et ça, quelle que soit la période de la vie où on commence à éjaculer souvent. C'est-à-dire qu'il est, un, jamais trop tard pour commencer à éjaculer souvent. Et deuxièmement, faut finalement jamais s'arrêter. Alors, pourquoi? C'est parce que dans le sperme, il y a deux substances qui s'appellent s'appelle la spermine et la spermidine, qui sont oncogéniques, c'est-à-dire c'est des substances qui peuvent transformer les cellules en cellules cancéreuses. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce liquide stagne trop longtemps dans la prostate, parce que au contact des cellules de la prostate, elle risque de les transformer. Donc il faut évacuer très régulièrement ce liquide vers l'extérieur pour diminuer le temps de contact entre ces deux substances et les cellules de la prostate.
Donc une réponse positive à votre question, Erson, oui, c'est validé scientifiquement, plus le nombre d'éjaculations
est important.
Est important, meilleur,
c'est
une forme de prévention, même on peut le dire,
c'est
non
une forme de prévention.
C'est une forme
oui.
de prévention. Est-ce que vous avez une autre question, Erson?
Oui, j'ai une autre question.
Oui, on vous écoute.
Oui, j'aimerais savoir, la question a deux volets. Hein, si d'abord la prostate augmenterait de volume chez tous les hommes.
Là, c'est ça.
Un, de deux, à quel âge exactement, l'âge de la vie, où la prostate commence-t-elle à prendre de volume chez un homme?
D'accord. Alors, effectivement, c'est inhabituel chez un homme âgé d'avoir une prostate de taille normale. La prostate grossit avec l'âge, comme les cheveux blanchissent ou tombent, et tout commence autour de 45 ans, sans qu'on sache pourquoi. La prostate se remet à grossir avec des stimulations de facteurs de croissance fœtaux qui se remettent à être stimulés sans qu'on en sache le déterminisme.
Donc, cette question est, est-ce que tous les hommes...
Chez tous les hommes,
chez
ça grossit.
Hommes, ça
il y a
change.
Peut-être, enfin, 80% des hommes ont une grosse prostate. C'est quand ils prennent de l'âge.
Voilà, Erson, pour les réponses à vos questions. On vous souhaite une bonne journée à Kinshasa. On reste décidément ce matin énormément d'auditeurs qui nous appellent de RDC. On va à Mbujimaï retrouver Stanley. Bonjour, Stanley.
Bonjour, Karine. Bonjour, docteur.
Bonjour, bonjour monsieur.
À tous les auditeurs de la RFI.
On vous écoute. Posez votre question.
Ma question, elle est celle-ci.
Oui.
Est-ce que le cancer de la prostate peut provoquer un homme l'épuisage sexuel? C'est ça ma première question d'abord.
D'accord. Alors, en lui-même, non. Le cancer de la prostate, en lui-même, provoque pas d'impuissance. Ce sont les traitements du cancer de la prostate qui peuvent entraîner une impuissance, soit les traitements chirurgicaux ou les rayons, et il y a à peu près un homme sur deux alors qu'il va perdre ses érections, soit les traitements hormonaux quand le cancer a des métastases, où là, c'est tous les hommes qui perdent leur libido et leur érection. Mais le cancer en lui-même, d'avoir un cancer dans la prostate, n'entraîne pas d'impuissance. C'est-à-dire que la perte des érections ou des difficultés d'érection ne sont pas un signe de présence de cancer de la prostate.
Vous aviez une autre question, Stanley?
Oui. Oui, Karim, la deuxième, c'est savoir les symptômes. Est-ce qu'il y a des symptômes à savoir?
Pour le cancer, malheureusement, les symptômes du cancer de la prostate sont tardifs. Il faut que le cancer soit déjà très gros pour qu'il entraîne des symptômes. Alors les symptômes, c'est des difficultés pour uriner, l'urine passe mal, ou du sang dans les urines ou dans le sperme, voire des douleurs osseuses quand il y a des métastases. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre les symptômes, il faut dépister ce cancer. Et pour le dépister, il faut faire une prise de sang pour doser une substance qu'on appelle le PSA, qui peut s'élever en cas de cancer. Il y a d'autres causes d'élévation du PSA, mais si le PSA est élevé, alors il faut chercher un cancer.
Voilà Stanley pour ses réponses. Très bonne journée à Mbujimaï en RDC. On va prendre un auditeur qui est au Mali, dans la ville de Bako Djikoroni. C'est dans l'ouest, nous a-t-il précisé. Il s'agit de Sidi. Bonjour Sidi.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
On vous écoute.
Bonjour. Bonjour. Ok, j'aimerais savoir s'il y a un rapport entre la bilharziose et le cancer de prostate.
Il n'y a aucun rapport. Donc la bilharziose, c'est une maladie parasitaire qui peut toucher le système urinaire, mais qui touche alors la vessie. Et donc, ce sont des hommes et des femmes, d'ailleurs, qui vont avoir du sang dans les urines ou des douleurs en urinant. Mais la bilharziose ne touche pas du tout la prostate, donc n'est responsable d'aucune maladie de la prostate.
Voilà pour cette réponse très simple. Donc la réponse est non. C'est vrai que quand la réponse est négative, ça va toujours beaucoup plus vite.
C'est plus direct.
Très bonne journée à vous, Sidi. On essaie depuis tout à l'heure de joindre un auditeur qui nous a laissé un message d'Abidjan. Il s'appelle Kwaku. Mais je vais vous le lire parce qu'on n'arrive pas à le rejoindre. Et je pense que sa question est assez intéressante. Surtout compte tenu de son âge. J'ai 26 ans. Mon problème, c'est que j'urine trop fréquemment. Par exemple, je me réveille entre 3 et 4 heures du matin pour aller aux toilettes. Et à 6 heures, eh bien, je retourne uriner. Le jet est fort. Mais j'ai surtout un problème de fréquence. Je bois un peu d'eau et ensuite j'urine toutes les heures. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est un problème de prostate?
Alors, c'est pas normal, mais ça ressemble pas du tout à un problème de prostate. Ça ressemble à un problème de vessie hyperactive. La première chose à faire pour ce jeune homme, c'est de quantifier ce qui sort. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne un verre gradué de cuisine et à chaque fois qu'il urine, il mesure ce qui sort, il note l'heure. Et sur 24 heures, il note à chaque fois tout ce qu'il urine en volume. Et donc, dans ces cas-là, on voit immédiatement. C'est comme un livre ouvert. Normalement, quand on urine pour un volume de 200 à 250 millilitres. Si à chaque fois qu'il urine, il a 80 ou 100 millilitres, c'est sûr, c'est une vessie hyperactive. Alors, le traitement de la vessie hyperactive, c'est à la fois des médicaments qui peuvent calmer la vessie, mais c'est aussi ce qu'on appelle la rééducation comportementale, c'est-à-dire que quand les patients ont une vessie hyperactive, ils sont très sensibilisés à cette envie d'uriner, et puis plein de petits détails de la vie de tous les jours fait qu'ils ne font qu'augmenter cette envie d'uriner, comme par exemple uriner chez soi avant de partir au cas où. Cette mixtion de sécurité fait que on croit que c'est bien et non, c'est le contraire parce qu'on a dans la tête, l'envie d'uriner et donc on va être attentif à ça et on va encore aggraver les choses. Donc la réponse c'est a priori c'est pas des problèmes de prostate du tout, ça ressemble pas compte tenu de l'âge et des symptômes, problème de vessie hyperactive. Donc déjà quantifier et puis après se rééduquer son comportement, résister à l'envie en pensant à autre chose, en comptant à l'envers quand l'envie arrive, par exemple, pour détourner son attention. Et puis, il y a des médicaments qui aident.
Voilà, Kouakou, Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez peut-être aller voir votre généraliste qui vous donnera tous ces conseils en disant donc, d'après le professeur Desgrandchamps, qu'on a écarté une maladie de la prostate. Nous sommes en ligne avec Libreville. Tout de suite, Toulon rejoint Jules. Bonjour, Jules.
Bonjour, Caroline. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Jules.
Alors, je voudrais savoir si notre alimentation peut être utile dans la prévention et la lutte contre cette maladie, d'une part, et savoir si est-ce que la tomate et les graines de courge, j'entends dit que l'huile également de ces graines seraient intéressantes, peuvent être utiles dans la lutte contre le cancer de la prostate.
D'accord, très intéressant comme question et vous êtes effectivement bien informé. Alors l'alimentation a un rôle dans les maladies de la prostate, mais avant tout il faut pas culpabiliser les gens. C'est pas parce que on a mal mangé que on tombe malade. La maladie c'est la faute à pas de chance. Alors il y a quand même des éléments favorisants ou des éléments protecteurs. Donc dans ce que vous avez dit il y a effectivement deux parties. Vous avez cité la tomate et c'est un élément très protecteur vis-à-vis du cancer de la prostate grâce au lycopène qui est un antioxydant qui est la coloration rouge de la tomate qu'elle contient. Plus on mange de tomates, moins il y a de cancer. C'est toujours prouvé ça. On peut même prendre des suppléments alimentaires de lycopène qui font aussi du bien. La courge, elle, c'est un peu plus discuté. C'est pas vis-à-vis du cancer de la prostate, mais c'est vis-à-vis de l'adénome de la prostate. L'huile de pépin de courge est très populaire, c'est en vente libre. Et en fait, si les gens en prennent et continuent de le payer, même s'il n'y a pas de grandes preuves scientifiques, c'est sans doute que c'est efficace. Donc, vous avez parfaitement raison, pour prévenir le mieux possible les maladies de la prostate, on peut s'aider de l'alimentation et effectivement, les critères principaux, c'est pour le cancer, c'est la tomate, et puis pour l'adénome de la prostate, c'est plutôt la courge.
Voilà pour ces réponses, Jules. Bonne journée à vous à Libreville. On va continuer, professeur Desgrandchamps. On va continuer avec vous justement dans ce registre de la prévention. On a parlé alimentation, peut-être qu'il y a d'autres choses à dire à ce sujet. Mmh. Et puis au niveau de l'activité physique, par exemple, est-ce qu'il y a aussi là aussi des comportements qui sont plutôt bons pour la santé de la prostate?
Et c'est en fait une découverte relativement récente de ces 10 dernières années, c'est qu'il y a un rapport entre la taille de la prostate et le tour de taille des hommes. Le tour de taille des hommes, c'est quoi? C'est l'homme de la cinquantaine qui commence à s'épaissir. C'est pas anodin, ce gras n'est pas anodin, c'est une masse assez toxique et qui engendre ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Et vous voyez arriver des hommes dont le ventre dépasse un petit peu par-dessus la ceinture et quand vous leur demandez les traitements qu'ils ont, ils ont déjà un traitement pour un diabète débutant, pour une hypertension, pour du cholestérol et ils viennent pour des problèmes de prostate. Alors, vous pouvez effectivement rajouter un médicament pour la prostate, mais vous pouvez essayer d'être un peu plus global. Et être plus global, c'est réduire le syndrome métabolique, c'est-à-dire en fait tout simplement demander aux hommes de manger un peu moins et de faire de l'exercice. Il a été montré que 2 ou 3 heures de marche par semaine divise par 2 le risque d'adénome de la prostate. Donc c'est tout simple, il faut s'arrêter une station de métro avant son travail, finir à pied, etc. Donc faut marcher, la marche est très bénéfique contre l'adénome de la prostate.
Professeur Desgrandchamps, un certain nombre d'hommes s'inquiètent. Un homme qui se couche, par exemple, à minuit et se lève à 6 heures pour aller uriner, est-ce qu'il doit s'inquiéter?
Non. Une fois par nuit, c'est normal, et chez les femmes aussi. La France bouge la nuit. Je ne sais pas si c'est la même chose en RDC, mais tous les Français de plus de 50 ans se lèvent une fois par nuit. C'est très, très, très général.
En chaussons ou pas. Je vais reprendre d'autres questions auxquelles vous répondez dans votre livre. La prostate, on en parle. Des médicaments, pourquoi faire?
Pour soulager les gens, les médicaments ne guérissent pas l'adénome de la prostate, ni d'ailleurs le cancer de la prostate, mais soignent et peuvent éviter des traitements plus lourds. Dans l'adénome de la prostate, il y a beaucoup de familles de médicaments. Il y en a une qu'il faut souligner là, parce qu'on l'a évoqué un tout petit peu, mais elle permet de répondre à cette association de symptômes, qui sont que la moitié des hommes qui ont des problèmes d'adénome de la prostate, donc qui se lèvent la nuit, qui ont des difficultés pour uriner, ont des difficultés d'érection. Les deux sont liés, et notamment parce qu'on a dit tout à l'heure, le syndrome métabolique. Et donc, il y a une classe de médicaments qui sont les analogues du Viagra, qui sont maintenant disponibles et génériqués, qui sont très bon marché, et qui peuvent être pris quotidiennement, qui marchent à la fois sur l'adénome de la prostate, donc les gens urinent mieux, et à la fois sur les érections, qui sont de meilleure qualité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de médicaments. Un des derniers aussi, c'est les médicaments qui marchent sur la vessie, puisque les symptômes dus à la prostate sont dus à une obstruction de la vessie qui a du mal à se vider, et qui se transforme, et qui devient pathologique, qui donne des envies fréquentes, pressantes. Il y a tout un tas de classes de médicaments qui agissent là-dessus aussi. Donc, il y a un arsenal de médicaments très efficaces qui fait que, finalement, pour l'adénome de la prostate, on aboutit à une opération qu'une fois sur 10.
Une petite question avant de rejoindre le Cameroun. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont recommandées?
Oui, il y a deux plantes qui sont recommandées. Le Pygium africanum, qui est un extrait d'écorce de pin, et puis le Serenoire épince, qui est un extrait de palmier. Et donc, ces deux médicaments sont bien sûr en vente libre, mais sont aussi remboursés par la Sécurité sociale sous des formes pharmaceutiques. Je peux peut-être dire ici ou pas, mais qui existent.
Voilà, on vous retrouve dans un instant, professeur Desgrandchamps, comme promis en on part tout de suite pour le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Edouard Hervé Moby. Bonjour, docteur.
Bonjour madame,
vous êtes...
bonjour professeur.
Bonjour docteur Moby.
Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Nkong Samba, 120 km de Douala, vous dirigez cet hôpital régional. Vous enseignez également à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de Douala. Alors, quelles affections de la prostate souffrent les patients que vous recevez en consultation, docteur Moby?
Les affections que nous recevons, en fait, c'est comme, je pense, dans le monde entier. Hein, nous avons des adénomes, nous avons des cancers de la prostate et nous avons quelquefois quand même des prostatites. Mmh. Donc c'est comme tous les hommes du monde.
Est-ce que les hommes attendent avant de consulter parce qu'ils justement craignent d'en parler, craignent la consultation, l'examen, docteur Moby? Est-ce que là aussi, hein, je vais vous poser la question, c'est comme en France?
Oui, parce que en fait la prostate est encore un sujet tabou, mais heureusement nous constatons et nous remarquons que de moins en moins quand même les hommes ont peur d'en parler. Hein, on en parle de plus en plus parce que nous avons, là je pourrais dire peut-être heureusement, des malades célèbres, hein, de maladies de la prostate qui sont morts par exemple des cancers de la prostate, qui ont fait en sorte que ça a mis en fait la lumière sur cette maladie. Nous avons également quand même aussi le nombre de plus en plus croissant de spécialistes en urologie au Cameroun. Actuellement, en comptant les spécialistes, mais également ceux qui sont en formation, nous sommes près d'une quarantaine, ce qui fait que la vulgarisation des maladies de la prostate se fait de plus en plus. Donc les patients viennent de plus en plus.
Ils viennent de plus en plus, mais est-ce que vous regrettez quand même, docteur Edouard Hervé Moby, un certain retard dans la consultation et forcément donc dans la prise en charge?
Ce retard, en fait, est, si on peut dire, vraiment, on pourrait dire pathologique, hein, nous sommes dans le stade des maladies, parce que en Afrique, hein, les hommes ne tombent pas malades. Je ne sais pas si en France les hommes tombent malades, mais en Afrique, l'homme n'est pas malade.
C'est-à-dire?
La femme qui est malade. Donc, dans la tradition, en fait, les hommes ne tombent pas malades.
L'homme reste fort.
L'homme reste fort, l'homme n'est pas malade, donc il ne va pas à l'hôpital. Et ça se voit, par exemple, dans les cas d'infertilité, c'est toujours la femme. Mais ici, également, dans les cas de maladie de la prostate, l'homme ne tombe pas malade. Mais
la réalité est tout autre.
Donc, est tout autre.
Ce qui fait qu'il vient tardivement, quand il peut vraiment plus faire autrement, quoi.
Tout à fait. Ouais. Parce que, en fait, pour eux, le patient qui n'urine plus bien, c'est en fait un signe de vieillesse, un signe donc c'est mal,
c'est normal.
C'est normal.
C'est normal.
C'est tout à fait normal. Oui, oui. Donc, et c'est pour ça, nous sommes en train de lutter contre ça.
Parce que quand on voit quand même des études, parce que maintenant de plus en plus on a des chiffres,
oui.
on voit quand même que le cancer de la prostate est le premier cancer urogénital au Cameroun.
Oui, oui.
En 2006, on était à environ 60% dans les cancers urogénitaux, et là, en 2018, une étude récente, en 2017, nous montre que nous sommes à 80%, donc le cancer de la prostate représente 80% des cancers urogénitaux,
ce qui est
vraiment énorme.
Et est-ce que les formes de cancer au Cameroun sont plus graves que celles qu'on peut voir dans l'Hexagone? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de deux formes différentes de cancer, des cancers pas agressifs, on vit avec, on vieillit avec, on n'en meurt pas, et des cancers agressifs qui peuvent tuer très jeunes. Parce que je crois savoir que, justement, dans les populations subsahariennes, les cancers sont plus agressifs qu'ailleurs. Est-ce que vous avez constaté ça aussi?
Nous avons constaté ça, et d'ailleurs, dans notre série, nous avons un patient qui a eu un cancer de la prostate à 32 ans.
Oui, voilà.
Professeur Desgrandchamps, ce genre de cas, vers la trentaine, c'est très rare
C'est très rare, et alors, je ne sais pas si Dr Moby sera d'accord avec moi, mais j'ai cru voir passer une étude biologique qui montre qu'une des raisons, c'est qu'il y a une prédisposition génétique avec une certaine hypersensibilité aux récepteurs des androgènes. Les androgènes, c'est l'hormone mâle, et la prostate dépend de l'hormone mâle pour se développer. Et semble-t-il, les populations subsahariennes ont génétiquement une sensibilité particulière de ce récepteur, donc la prostate est plus stimulée que dans d'autres populations. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît envisageable, concevable?
Mais en fait, au-delà même des populations subsahariennes, on parlerait plus simplement des populations noires. C'est vrai qu'idéalement, avant, on pensait que le noir n'avait pas de maladie de la prostate, mais on constate que de plus en plus, nous avons peut-être même, on n'a pas encore fait de comparatif, mais peut-être même plus de cancer de la prostate que les personnes, que les Caucasiens ou
Et le problème, c'est que les statistiques ne sont pas tout à fait complètes, et donc la fréquence du cancer de la prostate est sans doute sous-estimée chez les populations noires, justement.
Tout à fait.
À l'heure, vous parliez d'information, justement, docteur Edouard Hervé Moby, pour éviter que les hommes arrivent en consultation trop tard. Elle passe par quoi, cette information?
En fait, cette information, comme je vous ai dit, nous avons déjà un nombre de plus en plus croissant, donc de médecins, de spécialistes
d'urologue,
de la prostate, d'urologues. Nous avons également une société camerounaise, donc la société camerounaise d'urologie, qui agit actuellement dans l'information, dans la sensibilisation des populations, dans les campagnes de dépistage. Et nous avons également quand même les médecins généralistes que nous formons également pour que plus rapidement qu'ils puissent nous envoyer les patients.
Oui.
Parce que c'est plus le patient vient tôt, plus il a une chance d'avoir un traitement curatif.
Merci infiniment, docteur Edouard Hervé Moby, pour toutes ces explications et cet échange avec le professeur Desgrandchamps. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Nkong Samba, hôpital que vous dirigez.
RFI à Douala, 97.8 FM.
On termine cet échange. Tout à l'heure, vous avez dit le terme cancer à faible risque.
Oui.
Quand quelqu'un arrive en consultation, un homme, vous constatez que ce cancer est à faible risque. Malgré tout, il veut être opéré. Comment on réagit?
Alors, il veut pas être opéré a priori, s'il peut éviter de l'être, il faut informer les gens beaucoup. Et le problème, c'est souvent des deuxièmes avis. Quand un premier avis a inquiété le patient parce que le mot cancer fait très peur et n'a pas suffisamment insisté sur l'indolence, le faible risque d'évolution, on a beaucoup de mal après à ce que le patient soit vraiment convaincu qu'il n'y a pas de risque et que c'est pas une épée de Damoclès. Et donc, c'est de l'information qu'il faut donner, des statistiques, des courbes qu'il faut montrer pour dire que ce qu'on a trouvé chez lui n'est pas dangereux a priori et qu'il y a peut-être 10-15% de risque de finalement être traité pour ce cancer indolent, mais que dans l'immense majorité des cas, il l'oubliera, il vieillira avec et il mourra d'autre chose.
Ce sera notre conclusion. Dans votre livre, vous écrivez « La prostate est le reflet de la forme physique ». Qu'est-ce que ça signifie?
De la forme physique, c'est-à-dire en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est à la fois la forme physique au sens activité physique et également la forme sexuelle. Donc c'est le reflet, ça traduit en tout cas l'état de santé de l'homme.
Ça veut dire que globalement, en améliorant sa santé en général, on va favoriser la bonne marche et la bonne santé de sa prostate.
C'est exactement ça.
Ça veut dire qu'on peut vieillir, arriver à un grand âge avec une prostate en bon état ou inéluctablement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure dans l'évolution physique avec les années, elle va se détériorer.
Elle va se détériorer, mais il n'y a que 20% des hommes qui vont finir par en souffrir. Donc dans l'immense majorité des cas, la prostate est anormale chez l'homme et l'homme n'en sait rien.
Merci infiniment, professeur François Desgrandchamps. Je rappelle que vous êtes le chef du service d'urologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et on va rappeler le titre de cet ouvrage illustré, très explicatif, très simple, à la portée de tout le monde, avec tout un tas de questions et surtout des réponses. La prostate, on en parle, publié aux éditions Hachette Bien-être. Avec nous à présent, le docteur Catherine Solano, sexologue. Catherine, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors, on répond aux questions des auditeurs de Priorité Santé. Et le premier à nous appeler, c'est de Bamako, du Mali, c'est Mamadou qui est en ligne. Mamadou, bonjour.
Bonjour.
On écoute votre question, Mamadou. Le docteur Catherine Solano est à l'écoute.
Bonjour docteur. Ma première question est de savoir les causes et les conséquences de la déformation du pénis. Deuxième, y a-t-il une solution pour cette déformation ?
Si vous voulez, alors la première chose, c'est que le pénis, chez un homme en érection, il est rarement tout à fait droit. La plupart des pénis sont courbés. Toutes les courbures sont normales. C'est un peu comme la forme du nez ou des pieds ou des mains. On est tous différents.
Ça fait partie de la personnalité, on va dire.
Oui, voilà, ça fait partie de la personnalité.
Mais est-ce que pour certains hommes, il peut y avoir une cause extérieure, docteur Solano ?
Eh bien, en fait, non. C'est vraiment la forme de notre corps. Donc, cette question que vous posez, Caroline, il y a énormément d'hommes qui me la posent. Ils me disent, est-ce que la courbure de mon pénis vers la droite, par exemple, est due à la masturbation parce que je la pratique avec la main droite ? Ben non, c'est pas du tout ça. C'est pas parce que vous allez tirer votre pied vers la droite que vous aurez le pied tordu à droite. C'est pareil, c'est pas du tout lié à la manière dont on tient son pénis en urinant, ni parce qu'on dort sur le ventre en le plaçant à gauche ou à droite, ni comment on le met dans ses sous-vêtements. Mais en fait, c'est pas du tout lié à ça. Quoi qu'on fasse avec son pénis, il a sa forme d'origine. Voilà.
Alors on l'a entendu tout à l'heure avec Mamadou, question sur la physionomie et aussi des questions sur les conséquences, peut-être sur sa sexualité pour cette courbure du pénis.
En fait, un pénis courbé, ça n'a pas d'incidence particulière, il fonctionne exactement pareil. Il y a une seule chose qui change quand on a le pénis courbé, c'est les positions quand on fait l'amour. Parce que selon la forme du pénis, il y a des positions qui peuvent faire un peu mal. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients qui me racontent ça, et quand on a le pénis très courbé vers le haut, bah il y a des postures où ça fait mal parce que ça le tire un peu vers le bas. Si on l'a courbé vers le bas, il y a des postures où il est tiré vers le haut, ça fait un peu mal. Pareil pour la droite et la gauche. Et donc, il y a des hommes qui se disent, c'est pas normal, moi, il y a des positions qui me font mal, ça devrait pas être le cas. Et si, on est tous comme ça, parce que en fait, pour un couple donné, il y a des positions qui vont faire mal ou être désagréables. Et c'est pas seulement dû à la courbure du pénis. En fait, c'est sans doute aussi dû à celle du vagin. Mais ça se voit pas puisque c'est intérieur. Les femmes, elles ont pas forcément le vagin droit, à droite ou à gauche. Donc, je dirais qu'il y a pas beaucoup de couples qui peuvent faire toutes les positions en étant confortables.
Alors, vous avez parlé justement de ces méthodes pour s'adapter. Est-ce qu'il y a toutefois des physionomies qu'on pourrait dire anormal.
Disons qu'il y a des malformations du pénis, ça c'est sûr. Mais moi j'ai déjà vu un cas dans ma vie d'un homme qui avait une courbure du pénis vers le haut tellement importante que en érection son gland, si vous voulez, appuyait sur son ventre. Il remontait vers l'arrière carrément. Là c'est carrément gênant. C'est très rare. Dans ces cas-là, on peut parfois faire une opération. Par exemple, ce monsieur, il était vraiment très gêné, il pouvait quasiment pas avoir de rapport sexuel, très difficilement. Le chirurgien enlève un petit bout du pénis en coin, si vous voulez, pour le redresser, mais ça diminue la taille du pénis, c'est une grosse opération. Ça se fait vraiment pas beaucoup, donc ce que je veux dire aussi, pour ajouter un petit dernier mot, c'est qu'il y a des courbures anormales. Mais ça, c'est plutôt lié à ce qu'on appelle la maladie de la péronie, en général. C'est-à-dire qu'il y a une zone du pénis qui, avec l'âge, se déforme, durcit, et du coup, le pénis, en général, il se courbe pas. S'il se courbe, mais ça fait plutôt un angle. Et dans ces cas-là, on peut faire des traitements au niveau de cette zone qui est dure du pénis. Mais c'est pas quelque chose, en général, qu'on a quand on est très jeune. Ça vient plutôt au fil des années.
Et là, c'est quel spécialiste qui va pouvoir prendre en charge ce genre de problème de santé ?
C'est un urologue.
Voilà. Voilà, Mamadou, pour ces réponses du docteur Catherine Solano. Réponse très complète, comme on vient de l'entendre. On a une autre question. Là, c'est une question d'une femme, qui nous a laissé ça sur le compte Facebook de Priorité Santé, cette question de Rachida du Togo. Elle nous explique, elle est jeune, Rachida, elle a 22 ans, elle est mariée depuis 9 mois. Elle nous a écrit que lorsque elle fait l'amour avec son mari, elle ne le ressent aucun plaisir. En fait, elle n'a même pas de désir. Elle n'arrive pas à expliquer pourquoi. Et puis, elle raconte, hein, parce que ce message est assez long, assez complet. Elle raconte que quand elle était petite fille, à 6 ans, elle a été victime d'un viol. Enfin, elle dit, elle écrit un abus sexuel. Mmh. Et puis, jusqu'à ce mariage l'année dernière, à l'âge de 21 ans, elle a eu justement ce premier rapport sexuel, une nuit de noces qu'elle nous dit, je cite hein, ses propos parce qu'ils sont assez forts, véritable calvaire. Et aujourd'hui, elle ne supporte plus ces rapports, y compris quand c'est un rapport simplement digital. Elle ressent non pas du plaisir, mais de la douleur, et c'est un appel à l'aide qu'elle nous adresse, qu'elle vous adresse, docteur Solano. Oui.
Alors, je me dis que, en fait, Rachida dit qu'elle n'arrive pas à expliquer pourquoi elle a ces douleurs, mais en fait, elle l'explique très bien, puisqu'elle a eu une agression sexuelle, sans doute un viol, hein, même si elle ne décrit pas, et donc, on sait parfaitement qu'il arrive qu'une agression sexuelle ou un viol, encore plus, bloque complètement la sexualité. Parce que le corps qui s'est fait agresser par un homme, et ben après, il a un réflexe de peur envers la sexualité. Donc, il bloque le désir, le plaisir, en se disant « moi, je veux éviter la sexualité parce que j'ai pas envie qu'on me fasse du mal ». Ça se produit automatiquement, ça se contrôle pas, même quand on est avec un homme qui vous aime et qui vous épouse et qui veut pas vous faire de mal. Et donc, si jamais on insiste, ça fait des douleurs. Et puis, le corps, évidemment, il est pas excité, donc il y a pas de lubrification, donc la pénétration se fait à sec et ça fait mal. Donc, c'est pas facile du tout pour une femme qui a vécu ça. Alors, pour l'aider à dépasser, déjà, ce qui est important, c'est surtout ne pas se faire mal. C'est-à-dire que si elle ressent une douleur ou une gêne, il faut tout de suite dire stop à son mari et arrêter. Parce que si il lui fait mal, même sans vouloir, évidemment, lui vouloir de mal, le corps, ça réactive encore plus sa peur et le blocage va augmenter. Alors, au contraire, il faut qu'elle puisse dire stop et que dès que ça fait mal, son mari arrête. Même si vous voulez, au début, je dirais, par exemple, on parlait de pénétration digitale, parce qu'un doigt, c'est plus petit qu'un pénis. Ben, même si on peut rentrer que de 1 mm sans faire mal, c'est déjà un progrès. Peut-être qu'après, ça pourra être 2, 3, il faut des fois plusieurs semaines pour arriver à rentrer un doigt entier sans faire mal. Moi, je connais plusieurs hommes qui m'ont raconté avoir eu une partenaire qui avait été violée avant de la connaître. Hein. Et il me dit, j'ai mis 6 mois ou 1 an, mais j'ai réussi petit à petit, très doucement à la débloquer. J'ai été doucement, respectueusement, et son corps a fini par me faire confiance. Donc, c'est possible. Il faut au début commencer par des caresses seulement à l'extérieur du sexe, sur le pubis, les cuisses, les petites lèvres, et avec un doigt, le faire doucement et longtemps, le temps que le corps se détende sans chercher à rentrer au début. C'est seulement quand le corps est plus détendu qu'on peut chercher à rentrer, mais d'un millimètre au début. Hein. Vous voyez, il faut aller très doucement. Quand je vous explique ça, c'est le côté technique. Bien sûr, idéalement, faut aussi se faire aider sur le plan psychologique parce que ces blocages-là, ils peuvent se résoudre par des techniques, j'irais, comportementales et de couple, mais quand même, si on a
un appui, un soutien
qui va vous aider à vider votre sac, à dire ce que vous ressentez et à cicatriser ce qui s'est passé dans votre cerveau, tous ces circuits, bah, ça peut beaucoup vous aider.
Voilà, merci beaucoup, hein, docteur Catherine Solano, pour ses conseils. Rachida, on espère qu'elle aura entendu cette réponse à sa question Facebook et continuez, bien sûr, à nous adresser toutes ces questions Facebook Priorité Santé. Et Catherine Solano, vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Demain, nous allons parler de la maladie d'Alzheimer, les symptômes, l'accompagnement des malades, la vie aussi pour l'entourage. Si vous voulez témoigner, poser une question, numéro de téléphone de l'émission, le 33 84 22 75 75. À demain.
C'est Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.